Quels sont les premiers retours des mesures prises par les collèges de Haute-Garonne, Isabelle Duché?
Voilà presque un mois que les 68 500 collégiens ont fait leur rentrée en Haute-Garonne. De quels changements ont-ils été témoins? De quelles améliorations bénéficient-ils? Nous faisons le point ce matin avec Vincent Gibert, deuxième vice-président du conseil départemental de Haute-Garonne, notamment en charge de l'éducation. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dans la lancée des Jeux paralympiques, la question de l'inclusion des enfants en situation de handicap trouve un plus large écho. Qu'en est-il dans les collèges de Haute-Garonne, Vincent Gibert?
Dans les collèges de Haute-Garonne, nous avons une attention particulière à ce que tous les élèves, quelles que soient leurs conditions, puissent suivre leur scolarité. Donc nous avons un accompagnement particulier et spécifique vis-à-vis des élèves en situation de handicap. D'abord, en veillant à l'accessibilité de l'ensemble du bâti, pour que chaque élève puisse pouvoir suivre ses enseignements dans l'ensemble des collèges au Garonnais. Et puis nous avons une forte collaboration avec l'éducation nationale en ce qui concerne les classes à dispositif particulier pour ces élèves en situation de handicap. Et nous menons actuellement un projet pour essayer de permettre à ce que chaque collège puisse accueillir les temps de soins pour ces élèves en situation de handicap pour qu'on puisse à l'avenir éviter que, en fonction des problématiques qu'ils rencontrent, ils aient à sortir de l'établissement à chaque fois que cela est nécessaire. Et donc nous travaillons à la fois une adaptation du bâti ancien et sur le bâti nouveau, nous travaillons à intégrer des espaces au sein desquels ils puissent recevoir ces soins pour améliorer leur scolarité.
Alors, vous connaissez cette association l'UNAPI qui rassemble 300 associations de parents et d'amis de personnes en situation de handicap. Elle est convaincue évidemment de la nécessité d'inclure les enfants en situation de handicap dans les établissements ordinaires, et notamment via ces unités localisées pour l'inclusion scolaire, ces fameuses ULIS. Mais il déplore que parfois les enfants ne sont pas accueillis à plein temps, parfois certains ne sont qu'à 6 heures par semaine. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre?
C'est vous savez, toute l'attention qui est celle d'une collectivité comme la nôtre qui est en charge. La question du handicap au sens large, au-delà du temps de l'éducation, et mon collègue Alain Gabrielli est particulièrement engagé et a fait de notre département un département modèle sur cet enjeu-là. Mais moi, je crois que il y a aujourd'hui une question qui se pose sur ce qui relève de l'inclusion, c'est-à-dire sur ce qui relève des élèves qui sont accompagnés sur le temps scolaire par des AESH et les élèves qui sont scolarisés dans des dispositifs spécifiques du type ULIS. Et j'ai la sensation, parce que ce n'est pas là de notre entière responsabilité, cette question de l'enseignement et de la responsabilité de l'éducation nationale, mais qu'on est encore en train toutes et tous d'ajuster le curseur sur cet enjeu-là. Et donc nous sommes très attentifs au retour que nous font l'ensemble des familles. Et nous accompagnons, y compris les familles, dans leur dialogue, notamment avec l'éducation nationale, lorsqu'elles peuvent rencontrer des problématiques qui ne sont pas de notre responsabilité, mais auxquelles nous sommes très attentifs. Et je crois que le temps fait son effet et que les situations s'améliorent.
Vous avez mis en place un dispositif pour accueillir des élèves atteints de troubles autistiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, nous travaillons sur deux publics particuliers, les élèves qui connaissent des troubles autistiques et les élèves qui sont atteints de surdité. Et nous travaillons aujourd'hui avec l'éducation nationale à ce qu'il y ait un accompagnement particulier pour essayer de tendre au maximum vers l'inclusion de ces élèves atteints de troubles autistiques. Et donc c'est un projet que nous menons en cette rentrée, que nous allons évaluer et faire grandir si cela porte ses fruits.
Vous pouvez nous préciser en quoi ça consiste, cet accompagnement ?
L'accompagnement, il consiste déjà en une adaptation du bâti, parce que les élèves atteints de troubles autistiques ont aussi des problématiques particulières lorsqu'il s'agit d'évoluer dans un environnement qui n'a pas été pensé pour eux, et ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de travailler à ce que les AESH et les enseignants soient formés à connaître et pouvoir s'adapter aux problématiques particulières que posent ces élèves.
Avec une formation notamment sur la gestion des émotions et des comportements pour que les adultes soient au plus proche des besoins de ces élèves-là.
Voilà.
Alors, autre sujet, il y a un an, c'est le conseil départemental de Haute-Garonne qui a mis en place un plan de lutte contre le harcèlement au collège. Est-ce que vous pouvez en tirer, Vincent Gibert, un premier bilan de cette première année?
Alors, tout d'abord, il faut dire que c'est une initiative qui est inédite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'une responsabilité qui nous est confiée, mais on s'est saisi d'une volonté. Et cette volonté, elle a été légitimée, notamment lorsque nous sommes allés devant les électeurs demander leur confiance, et nous avions intégré cette problématique du harcèlement scolaire dans nos programmes pour faire savoir que nous souhaitions agir sur cet enjeu du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, l'Éducation nationale a mis en place un dispositif qui s'appelle le plan phare, et qui en fait fait que dans chaque établissement, dans chaque collège, vous avez une cellule qui est en charge du traitement des cas de harcèlement. Une cellule qui rassemble des enseignants, les CPE, les personnels de direction,
psychologues aussi,
des psychologues de l'établissement, les infirmières des établissements. Et nous avons souhaité non pas aller doubler ce dispositif-là, mais nous appuyer sur ce dispositif pour élargir ce qui devait être proposé aux élèves et aux équipes éducatives pour pouvoir apaiser le climat scolaire et résoudre un certain nombre de situations. Donc, nous avons mis en place, avec des structures associatives, des volontaires qui sont en résidence dans les établissements, ce sont des jeunes en service civique, avec l'idée qui est la nôtre que le fait que ce soit des jeunes qui parlent à d'autres jeunes, ça crée une relation presque de pair à pair qui permet à ce que les paroles se libèrent. Nous avons également proposé à tous les établissements des temps de formation et de sensibilisation des élèves et des enseignants à cet enjeu-là. Nous avons travaillé également à la formation de nos personnels, qui sont des personnels territoriaux, qui sont en charge du nettoyage des locaux, qui sont en charge de la fabrication des repas, mais qui sont donc au contact des élèves et qui peuvent identifier, repérer des situations de harcèlement. Et puis nous avons travaillé l'autre bout de la chaîne, ce qu'on pourrait appeler comme étant le volet curatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne les jeunes qui sont victimes de harcèlement, notamment en travaillant avec un de nos services, qui est la maison départementale des adolescents, dans lequel vous avez des psychologues qui sont formés pour pouvoir accompagner les jeunes et leurs familles. Et enfin, nous avons créé un guide qui, là aussi, est assez unique parce que beaucoup de territoires en France nous demandent à pouvoir s'en saisir. Un guide qu'on livre à l'ensemble des élèves et donc à l'ensemble des parents, qui leur donne les clés pour mesurer le fait de savoir s'ils sont confrontés à une situation de harcèlement, et pour les orienter. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez classique, mais aussi pour les aider, c'est-à-dire en leur donnant des outils sur la façon dont ils doivent se comporter lorsqu'ils sont confrontés à une situation de harcèlement. Et ça, c'est un dispositif qui commence à porter ses fruits parce qu'il déclenche à la fois des dialogues en classe sur cette dynamique du harcèlement, il déclenche des dialogues dans les familles, et ce qu'on veut faire changer, c'est cette idée que finalement le harcèlement serait banal, et qu'à partir du moment où une situation est considérée comme banale, eh bien on s'habitue, on la dénonce de moins en moins, et c'est un cercle vicieux. Et ce que nous voulons briser, c'est ce cercle vicieux qui était à l'œuvre.
Donc ces guides pédagogiques sur le harcèlement scolaire qui ont été distribués à 68 000 exemplaires, vous continuez encore de les faire passer dans les différents collèges?
On continue de distribuer les guides, on continue de travailler et de donner les moyens aux structures associatives pour qu'elles puissent intervenir dans les établissements. Donc oui, nous confortons et nous accentuons même à cette rentrée le plan départemental lutte contre le harcèlement, puisque ce seront plus de collèges encore qui pourront saisir des jeunes volontaires en service civique.
Est-ce que vous avez déjà eu des retours des collèges qui vous ont dit oui, ça nous a vraiment rendu service, ou on attend peut-être encore plus?
Mais par exemple, sur l'expérimentation à laquelle je faisais référence, c'est-à-dire mettre des volontaires en service civique en résidence dans les établissements, on avait identifié à la rentrée dernière 25 établissements qui nous semblaient être les plus problématiques au regard de leur situation, et nous les avons sollicités pour savoir s'ils souhaitaient reconduire cette expérimentation dans leur établissement. Et sur les 25, 24 d'entre eux nous ont fait savoir qu'ils souhaitaient qu'on poursuive, et donc on va poursuivre avec ces 24 et on va aller même au-delà.
Voilà. Vincent Gibert, le département de Haute-Garonne est le seul département à avoir mis en place un parcours laïque et citoyen. Quel est son contenu?
Alors, son contenu, il est varié, mais il est varié dans le sens où ce sont des acteurs associatifs avec qui nous avons contractualisé pour qu'ils interviennent dans les établissements. Il est varié dans le sens où ce sont des acteurs qui ont des clés d'entrée qui sont très diverses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des structures culturelles, des structures de l'éducation populaire, des associations sportives, mais qui vont toutes avoir comme objectif, d'une part, de transmettre aux jeunes les outils pour comprendre ce qu'est leur place ou ce que sera leur place en tant que futurs citoyens dans la société, et puis des clés d'entrée qui permettent d'aborder les enjeux autour des questions de laïcité. Donc oui, c'est un dispositif qui est unique en France, on consacre un peu plus d'1 million d'euros par an à ce dispositif, et là encore, c'est quelque chose que nous confortons en cette rentrée.
Mmh. Donc c'est à destination des élèves entre le CM1 et la 3e.
Et la 3e.
Comment vous sélectionnez les associations ?
Alors, chaque année, nous lançons un appel à projet au mois de décembre. Toutes les structures associatives qui souhaitent s'intégrer à ce dispositif candidatent. À la suite de ça, on a une phase d'instruction et d'examen des dossiers et les sélections sont faites ensuite dans des comités dans lesquels sont représentés à la fois, bien évidemment, le conseil départemental qui est l'unique financeur, mais aussi l'éducation nationale, des représentants des parents d'élèves, des représentants des enseignants et des représentants des personnels de direction des établissements. Et donc nous avons des comités de sélection qui sont parfois très longs, au cours desquels nous examinons chaque dossier pour savoir s'ils peuvent répondre aux enjeux qu'on a posés et s'ils sont en capacité d'aller dans des établissements.
Et puisqu'on parle de laïcité, est-ce que vous n'avez pas dans ces sélections un regard des religions, des principaux représentants?
Non.
Des religions?
Non, on n'est pas dans une dynamique de dialogue interculturel sur cette approche de parcours laïque. L'objectif qui était le nôtre, c'est pas à travers le parcours laïque de doubler l'enseignement qui vient donner un enseignement sur l'histoire des religions. L'objectif qui était le nôtre, c'était de s'assurer que chaque élève et à un moment, un temps où il s'interroge sur sa place dans la société, où il interroge aussi la société, où on lui transmet des outils, et puis surtout sortir aussi des professeurs de leur isolement sur ces enjeux-là, parce qu'on sait que c'est parfois complexe pour eux d'aller mener le dialogue sur ces questions qui sont parfois sensibles, et que donc des professeurs soit avaient peur d'évoquer ce sujet, soit l'évoquaient en le survolant, et donc là, ils ont à leur côté des partenaires qui peuvent, eux, mener ces débats et ces enseignements.
En Haute-Garonne, il y a 62 000 collégiens qui sont demi-pensionnaires. On compte les établissements publics et les établissements privés. Ça, c'était le chiffre de 2023-2024. Ça veut dire 90,5% des élèves. Que ce soit pour la cantine scolaire ou les transports, comment le département soutient les familles en difficulté ?
Alors, que ce soit pour les transports ou la cantine, pour les transports, c'est assez simple. Les transports sont gratuits pour l'ensemble des élèves au Garonnais, en partenariat avec la région sur une partie du périmètre du territoire, et puis avec un financement exclusivement départemental sur une autre partie. Et en ce qui concerne la restauration, nous considérons que le temps de midi et deux est un véritable temps qui fait partie de la vie de l'élève et aussi un temps d'enseignement. Et donc, nous avons une politique qui est double. À la fois un engagement fort en termes d'accompagnement des familles, puisque ce sont plus de 20 000 familles qui sont aidées pour la restauration scolaire, donc soit qui est gratuite, soit qui est financée à 50% par le département. Et après, le prix du repas est un prix du repas unique et il varie en fonction du nombre de jours dans la semaine où l'élève fréquente l'établissement, mais c'est entre 3,50 € et 4 euros le prix
pour,
du repas.
Pour les établissements publics.
Pour les établissements publics, le prix du repas. Et donc, ces conditions-là, à la fois un prix de repas très faible et un accompagnement très important des familles les plus précaires, ça fait qu'on a un taux de demi-pensionnaires qui est très important dans les établissements et ça va fluctuer en fonction de l'âge de l'élève, puisqu'on a des secteurs d'école sur lesquels il y a 60% de demi-pensionnaires et tout à coup, lorsqu'ils arrivent au collège, on monte à plus de 95% de demi-pensionnaires.
Oui,
avec une autre attention, qui est là aussi une spécificité aux Garonnaises, c'est d'avoir dans la quasi-totalité des établissements, à l'exception de quelques-uns dans lesquels il y a pas la place de faire des cuisines autonomes dans chaque établissement. Donc on est vraiment sur une restauration qui est faite en faible volume, en proximité des enfants et des adultes qui mangent à la cantine. Donc il y a une relation entre celui qui prend le repas et celui qui le fabrique. Et donc on a des repas qui sont des repas de qualité dans les établissements, ce qui contribue aussi à ce qu'il y ait une volonté de pouvoir participer à ce temps de la restauration.
Et oui, bien sûr. Et est-ce que on pourrait imaginer un soutien du conseil départemental pour financer la cantine des enfants de familles défavorisées aussi dans les établissements privés?
Alors il y a aujourd'hui un élève quel qu'il soit c'est-à-dire qu'il soit scolarisé dans un collège privé ou dans un collège public, s'il est issu d'une famille en difficulté, il y a un accompagnement du conseil départemental. Après, chaque établissement est en charge de sa restauration, et nous, nous sommes en charge de la restauration dans nos établissements, mais pour ce qui concerne les établissements privés, il y a une aide aux familles, mais de la même façon qu'il n'y a pas d'aide directe pour les collèges publics, il n'y a pas d'aide directe pour les collèges privés, il y a simplement une dotation, puisque nous, nous prenons en charge les personnels qui font la restauration, et nous compensons cette charge-là pour les collèges privés. Donc ce sont à eux de se saisir de cette compensation financière qu'on leur donne pour pouvoir permettre d'avoir des repas au même prix que ceux dont bénéficient les élèves dans nos collèges publics.
Merci beaucoup Vincent Chibert, deuxième vice-président du conseil départemental de Haute-Garonne en charge de l'éducation, la vie associative, les valeurs de la République et de la mémoire. Et puis bon allez, c'est encore la rentrée, donc on vous
donc on peut souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves au Garonne.
C'est ça. Merci.
Merci beaucoup.